Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui a choisi depuis quelque temps de faire un travail de mémoire, mémoire familiale, mémoire générationnelle. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Mina Fadley, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui.
Eh ben, ravie d'être la femme du jour. Merci pour l'invitation.
Ce diminutif de Mina est très charmant. On vous appelle toujours Mina ?
Oui, en fait, c'est mon prénom. C'est pas un diminutif.
C'est pas le diminutif d'Amina.
Non, c'est pas le diminutif d'Amina. Mais ça vient de ma grand-mère qui s'appelle Yamina.
D'accord. Ok. Donc, vous portez en quelque sorte la mémoire de votre grand-mère.
Exactement.
Est-ce qu'on s'en rend compte lorsqu'on porte le prénom de ses ancêtres ?
Eh bien. On s'en rend compte parce que, d'une part, moi, je le porte à travers différents pays. Mmh. Donc, comme je suis née en France et du coup, je le porte à travers d'autres pays. Et puis, je porte aussi un caractère de ma grand-mère. Donc, je pense que je m'en rends compte parce qu'elle avait des traits particuliers. Elle est décédée en 2022, mais c'était une oratrice formidable, une conteuse. Et c'est elle qui m'a accompagnée pour l'écriture de mon roman. Donc, je pense que je porte un peu une part de l'hérédité.
De l'hérédité, oui. C'est une fierté, en fait.
Oui,
mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident pour les autres. Dans votre cas, vous l'avez connue, vous avez grandi avec elle. Enfin, vous l'avez bien côtoyée. Et puis c'est cette femme justement avec cette force. Parfois, c'est plus difficile de porter le prénom d'un ancêtre lorsqu'il est décédé avant, etc.
C'est plus difficile, et surtout si son histoire, si on n'est pas fier de son histoire, par exemple. Donc, c'est une contrainte.
Ouais.
Moi, je suis plutôt fière de la femme qu'elle était, de ce qu'elle nous a transmis. Donc, pour moi, c'est une fierté, et je revendique ce prénom Mina au quotidien. Donc, j'espère que je le porte bien, et que je porte bien sa mémoire.
Hein. Ouais. Alors, justement, vous avez parlé de votre livre, ça s'appelle « Le goût de la terre ». C'est votre premier roman.
Oui.
Alors, de quoi ça parle ?
Eh bien, en fait, ce roman est arrivé suite à une demande de mon père. Okay. Mon père m'a demandé, il y a quelques années, de l'aider à retrouver son frère, qui a disparu à la fin des années 40. Et du coup, j'ai commencé à enquêter. Et ce livre, en fait, est le résultat du travail d'enquête que j'ai mené à travers le Maroc pour tenter de retrouver ce petit frère disparu à la fin des années 40.
Et il avait disparu dans quelles circonstances ?
Dans un contexte particulier, puisque le Maroc avait été frappé par des grandes famines dans les années 47-48.
Ouais.
Et du coup, mon père est né dans un village reculé du Haut Atlas, malheureusement frappé également ce village par les tremblements de terre récemment. Mmh. Et il est né dans un contexte difficile. Ma grand-mère, Zahra, a dû faire des choix parce qu'elle s'est retrouvée veuve avec ses deux garçons. Donc mon père, Mohamed, qui était le plus grand, et son petit frère, Mbark, qui était 2 ans plus jeune que lui.
D'accord.
Et donc, elle n'arrivait plus à les nourrir. Tout le monde mourait à cette époque, hein, parce qu'on disait que c'était l'année des farines, parce qu'il n'y avait plus de farine, justement. Et donc, elle a dû faire des choix horribles pour tenter qu'ils puissent vivre, afin qu'ils puissent vivre, parce que là, dans le village, ils ne pouvaient plus vivre comme ça, ils étaient trop fragiles. Donc, elle a échangé, en quelque sorte.
D'accord.
Donc, une histoire extrêmement douloureuse.
Oui. Elle l'a donné à quelqu'un ?
Voilà,
ouais.
Oui.
Ouais. Et elle se souvenait plus de qui elle l'avait donné, ou elle ne retrouvait plus cette famille, ou qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, justement, c'était l'objet de cette enquête.
Ouais. Mais elle en parlait ?
Non, ma grand-mère paternelle, j'ai très peu connue pour le
D'accord.
coup,
okay.
Parce qu'elle est décédée dans les années 80, donc elle n'a pas pu m'aider en tout cas dans cette recherche.
Okay.
Mais ma grand-mère maternelle, donc elle qui avait encore toute la mémoire et qui est issue du même village, a pu me raconter justement dans quelles circonstances ce petit garçon a disparu. Elle m'a raconté le contexte des grandes familles dans ce village, justement la difficulté à trouver de l'eau, à trouver de quoi manger, bref, à manger ce qu'on pouvait trouver. Mmh. Et puis justement l'enfant qui a été donné quelque part pour qu'il puisse vivre aussi, pas pour s'en débarrasser.
C'est ça.
Et donc j'ai remonté ce fil grâce à ma grand-mère.
À Yamina.
Mon père, voilà, à Yamina qui m'a beaucoup beaucoup aidé justement à tenter de remonter. Donc on est vraiment dans les années 50. Ensuite, on va essayer. Ce livre raconte l'enquête de mon père, parce que mon père l'a cherché beaucoup après aussi. Il l'a cherché parce que il habitait au bled, voilà, dans le village, et ensuite il a déménagé à Casablanca comme. Comme ma grand-mère était veuve et elle s'est remariée, donc mon père est parti à l'âge de 8 ans avec une de ses tantes à Casablanca. Et donc on traverse justement ce Casablanca des années 50, cette vie un peu multiculturelle avec encore la base américaine, avec une population marocaine juive très présente dans Casablanca, parce que ce petit garçon a atterri dans une famille juive.
D'accord. Votre papa.
Donc... Non, le petit gars.
Votre
Mbarka. Voilà, Mbarka a atterri dans une famille juive. Et donc, c'est cette enquête à travers aussi ces deux communautés qui se côtoient, qui étaient très proches, voilà, des berbères musulmans et des berbères juifs dans les mêmes villages. Et donc, il a été recueilli quelque part. Et ensuite, il a quitté le pays.
Okay.
Donc, je retrace toute cette histoire. Donc, c'est extrêmement varié.
Vous l'avez trouvé?
Ah, je ne dis pas la fin de l'histoire.
Non, mais pourquoi je vous pose la question parce que bon, j'ai interviewé votre frère récemment aussi, dans la version homme de femme d'aujourd'hui, par rapport à son action pour sensibiliser contre Alzheimer, parce que vous avez perdu votre papa récemment de cette maladie, Baraka Frasco, justement. Comment ça va, Mina, par rapport à ça?
Ça a été très dur parce que mon papa nous a quittés le 15 août suite à une période de longue maladie d'Alzheimer. Et tout ça est lié à Alzheimer. Donc mon frère, il fait cette action aussi formidable de faire 5 Ironman en une année. Moi, quelque part, j'ai écrit ce livre aussi par rapport à la maladie de mon père. Parce qu'en fait, quand la maladie est arrivée, eh bien, souvent on dit qu'on revient à ses souvenirs premiers.
Oui.
La douleur qui lui restait, c'était la perte de ce petit frère et le fait qu'il ne l'avait jamais retrouvé. Donc
ça, il s'en souvenait.
Et il s'en souvenait. Il m'a tout raconté, il se souvenait de beaucoup de choses. Il me demandait de le retrouver. Il me disait, avec Internet, tu peux essayer de le retrouver, etc. Donc moi, j'ai essayé de soulager mon père en enquêtant. Et ensuite, comme je n'ai pas complètement abouti, j'ai trouvé des traces mais je n'ai pas retrouvé l'homme. J'ai écrit ce roman pour apporter une réponse à mon père.
D'accord.
Donc je lui ai apporté ce livre que j'ai commencé à lui lire aussi. Il avait les larmes aux yeux quand je lui ai lu les premiers chapitres.
Malgré la maladie.
Malgré la maladie, il n'était plus en capacité de lire, mais il était en capacité d'écouter. Je ne suis pas allée jusqu'au bout parce qu'après la maladie a pris trop de place. Et puis là il nous a quittés donc le 15 août. On a fait le choix de l'enterrer au Maroc dans son village natal. Finalement, il aimait mais qu'il détestait aussi par rapport à toute cette histoire.
Il voulait y être enterré.
Il nous avait dit vous ferez comme vous voulez.
D'accord.
Il nous avait donné le choix. Donc on aurait pu l'enterrer en France, à Casablanca ou. Et finalement, on a fait le choix de son village parce qu'il y a son père, il y a sa mère dans ce cimetière. Puis c'est quand même ses racines. Et puis là, moi, j'ai beaucoup pensé à lui parce que forcément, le tremblement de terre a secoué cette terre. Et je me suis dit, on vient d'enterrer mon père et mon père est déjà secoué 15 jours après être inhumé là-bas. Donc voilà, c'est douloureux, mais c'est aussi une étape de la vie. Voilà, on est tous ensemble en famille. On s'est retrouvés tous ensemble en famille aussi au Maroc, d'abord en France pour organiser les obsèques, et ensuite au Maroc avec tout le village qui nous a accompagnés. Donc on n'a pas dépassé les 40 jours. Donc voilà, moi chaque matin je me réveille encore avec mon père parce que c'est un personnage qui a compté beaucoup dans ma vie. C'était un homme à l'esprit ouvert. C'était un véritable humaniste qui est parti en France travailler, parti en France aussi chercher son frère. Il a toujours beaucoup fait pour la communauté marocaine en tant que Marocain résident à l'étranger. Et pour le village au Maroc, il a beaucoup, beaucoup fait. Donc c'est vraiment quelqu'un qui comptait beaucoup au Maroc. Et tout le monde on a reçu des lettres et des attentions de personnes venant de partout, de France, de Maroc, voilà, qui témoignaient justement de l'homme qu'il a été. Donc ça nous a bien accompagnés aussi.
Alors Mina Fadli, la femme que vous êtes, la fille que vous êtes aussi de ce monsieur, comment ça va aujourd'hui? Parce que il y a eu la maladie, il y a eu le décès de votre papa, mais pendant très très longtemps, votre vécu a été intimement lié à ses besoins, à lui, à son besoin viscéral de retrouver son frère. Donc vous avez donné beaucoup de votre personne à votre papa. Aujourd'hui, comment ça va? Comment vous arrivez à gérer le quotidien? Le livre est bouclé, votre papa est parti. Oui. Votre quotidien, vous le gérez comment?
Alors, mon quotidien, il a été plutôt pris par une organisation, j'ai envie de dire, matérielle administrative depuis le décès. Donc, il n'y a pas eu encore de pensée. Et là, ça fait à peine une semaine où j'ai entamé une phase de deuil. Parce que les premiers instants, on est dans l'organisation, donc on n'a pas le temps de penser à tout ça. Moi, il s'avère que le jour où mon papa est décédé, j'étais près de lui. Donc, il est décédé en Normandie, en France, et j'étais près de lui avec ma mère. Donc, j'ai cette image au quotidien de mon père sur son lit en train de partir. Mais malgré tout ça, j'essaye d'avancer. Donc, j'avance avec mon père. Là, j'essaie d'avancer. On est en train de monter une association avec ma famille, justement, pour venir en aide au village, en pensant à mon père aussi qui est enterré là-bas, par rapport au tremblement de terre. Et puis j'ai l'envie d'écrire encore parce que il m'a raconté beaucoup beaucoup de choses et j'ai plein de choses encore à écrire. Donc voilà, j'essaie de transmettre finalement ce qui m'a transmis et de laisser une trace de son passage parmi nous. Donc voilà, en lisant le livre, on voit la personne qu'il a été et je me dis voilà, j'ai envie de poursuivre ce travail aussi de mémoire. C'est laisser une trace aussi à ces personnes qui n'ont pas toujours eu l'estime qu'ils souhaitaient, en tout cas en France, qui n'ont pas considérés comme des immigrés. Mais finalement, c'est des immigrés qui portaient une mémoire, qui portaient une culture, qui portaient beaucoup de choses. Donc tout ça, ça me permet d'avancer aussi à travers la mémoire que je souhaite laisser de mon père. Donc malgré tout, ça va parce que je suis entourée de mon mari, de mes enfants, ma mère au quotidien. On s'épaule. On s'épaule avec ce deuil.
C'est ça, c'est que chacun trouve en fait sa voie pour faire son deuil. Vous, c'est à travers l'écriture, votre frère, c'est à travers les Iron Man. Votre papa est tombé malade, donc a eu Alzheimer. Est-ce qu'on se prépare au départ?
On a eu différentes phases. Mon père, il a été préparé. Disons que mon père, à partir du moment où le diagnostic est tombé, il était encore très lucide. Il me disait que c'est bon, qu'il avait fait son temps sur Terre et qu'il fallait qu'il parte. Parce qu'au départ, il était un peu dans le déni de la maladie. Mmh. Il me disait c'est n'importe quoi. Parce qu'il était encore vaillant quand le diagnostic est tombé. Et il attendait son départ. Il me disait j'attends mon grand voyage. Donc nous, on n'était pas préparés à cette époque parce qu'il était, il était bien en forme. Donc quand il nous disait ça, on était même choqués. On n'est jamais préparé parce que malgré la maladie, il était parmi nous. Moi, la semaine avant qu'il décède, j'allais le voir tous les jours. Alors certes, il n'avait plus le langage pour nous parler, mais il nous reconnaissait, il avait son sourire, il nous voyait, il nous parlait. Bon, on ne comprenait pas tout ce qu'il nous disait, mais en tout cas, il était en connexion avec nous. Donc moi, je ne pensais pas qu'il allait partir comme ça. Et donc ce jour-là, ça a été d'une violence très forte, quoi. Donc malgré la maladie et l'âge qu'il avait, puisqu'il est décédé à 85 ans, on n'est pas préparé parce qu'il n'y a rien qui nous prépare au départ. Et là, je n'ai pas encore réalisé pour tout vous dire parce que c'est encore tout frais et que, comme je vous disais, on a fait beaucoup de choses de façon administrative, les papiers pour le rapatriement du corps, etc. Ça nous a pris du temps et ça nous a mobilisés. Donc la phase de deuil, je pense qu'elle sera assez longue.
Est-ce que vous pensez que vous allez revenir au village de votre papa?
Oui. Oui, c'est aussi pour ça qu'on l'a enterré là-bas. On s'est dit que ce sera comme un pèlerinage, en fait, chaque année, d'aller le voir. Moi, j'ai encore beaucoup de famille hein, dans ce village. J'ai mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Donc, c'est l'occasion de voir la famille, mais c'est aussi l'occasion de le voir sur sa terre aussi. Mmh. Donc oui, on a prévu d'y retourner même en famille, pour le coup, pas seul, mais en famille. Moi, je vais avoir l'occasion là, d'aller au Maroc présenter mon livre. Voilà, mais au-delà de présenter mon livre, voilà, chaque année, j'espère y emmener mes enfants, voilà, pour qu'ils puissent aller voir leur grand-père, hein, qui a beaucoup compté pour mes enfants aussi.
Hein. Ouais. Alors, ce que vous dites est quand même important parce qu'on pense que la première génération, justement, qui est partie, reste connectée avec sa terre. On se dit, la deuxième génération, allez, moyen, pourquoi ? Parce que forcément, ils rentraient pendant les vacances. Mais on se dit, la troisième génération, donc vos enfants, ne restent pas connectés avec des contrées aussi lointaines. Et pourtant, en tant que mère, c'est important pour vous que vos enfants continuent à aller dans la région de leurs grands-parents.
Oui, c'est important. Alors, c'est sûr qu'ils sont moins connectés que ce que moi, j'ai pu être plus jeune, parce que nous, on avait un pèlerinage, j'ai envie de vous dire. On partait chaque année au Maroc, donc c'était les vacances de l'année, alors que mes enfants, beaucoup moins. Ils n'ont pas accès à la langue de la même façon aussi. Moi, je parlais l'arabe, le berbère. Eux non. Donc, mais ils ont cette connexion et au fond d'eux, ils revendiquent aussi cette marocanité en eux. Donc, ils souhaitent conserver ses racines. Ils ont l'habitude d'aller au Maroc, d'aller à Casablanca, d'aller au village. Alors certes, au village, on n'y passe pas une semaine parce que les conditions sont rudes, mais ils sont connectés à cette terre, ils sont connectés. Et leur grand-père, maintenant que leur grand-père est enterré là-bas, voilà, ils souhaitent y retourner pour se recueillir sur sa tombe.
Vous reprenez quand les investigations ?
Je suis dans une investigation perpétuelle, j'ai envie de vous dire. C'est jamais en arrêt, c'est-à-dire que dès que je discute avec ma mère, dès que je discute avec quelqu'un du village, finalement, c'est comme si j'enregistrais ce qu'il me disait. Et parfois, je prends des petites notes. J'ai un fichier ouvert sur mon téléphone pour mes notes et je prends des notes en continu. Après, j'en ferai quelque chose ou pas, mais c'est voilà, la prise de notes pour garder mémoire, parce que c'est des peuples qui n'écrivent pas dans ces villages, il n'y a pas de traces écrites. Finalement, s'il n'y a pas des personnes comme moi pour pouvoir garder mémoire, c'est une histoire qui s'évapore. Donc, j'ai beaucoup enregistré aussi ma grand-mère maternelle, Yamna, qui m'accompagnait. Et j'ai plaisir à écouter ces enregistrements parce qu'elle a une voix vive, elle est dynamique, elle passe sans retenue, l'âge faisant, elle a plus de tabous, donc elle dit les choses de façon un peu cash, mais elle les dit très bien. Donc ça, j'ai enregistré aussi des audios pour garder mémoire de ces personnes. Et voilà, du coup, je continue.
Eh bien, Mina Fadli, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Yasmine.
C'était un plaisir. À très vite. À très vite. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.